Merci d'écouter Radio Kapi, c'est l'heure de vous informer.
Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal Blaise Jordan Shindani Kambala.
Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de ce journal, alerte à la tuberculose à la prison centrale de Boma. 17 détenus sont touchés et 2 ont succombé à la maladie au cours de la dernière semaine. Une organisation de défense du droit à la santé des détenus exhorte les autorités à agir sans délai. La SOMICA blanchit des accusations de pollution à Kibunduka. Selon la société civile du Haut-Katanga, les analyses d'échantillons prélevés dans le cours d'eau de la zone montrent que les rejets de l'entreprise ne présentent aucun caractère polluant. Kananga a accueilli du 13 au 16 août la deuxième édition du Festival international Sankai, consacré à l'entrepreneuriat, à l'investissement et à l'innovation. Quels étaient les principaux enjeux de ces assises? Réponse avec Jonathan Moulumba, coordonnateur général du festival, invité de ce journal. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour à tous. La tuberculose gagne du terrain à la prison centrale de Boma. Selon l'Union de développement et de restauration de la santé par des produits naturels, 17 détenus sont actuellement atteints de cette maladie et 2 décès ont été enregistrés au cours de la dernière semaine. Cette organisation qui milite pour le respect du droit à la santé des personnes privées de liberté appelle les autorités à agir rapidement afin d'éviter de nouvelles contaminations et pertes en vies humaines. Élise Kavira pour les détails.
Derrière les murs vieillissants de la prison centrale de Boma, la situation sanitaire devient de plus en plus préoccupante. Conçue pour accueillir environ 160 détenus, cette maison carcérale en héberge aujourd'hui 509, soit plus de 3 fois sa capacité initiale. Cette surpopulation favorise la propagation des maladies contagieuses, notamment la tuberculose. Alain Mobuka Egbolo, coordonnateur de l'Union des développements et de restauration de la santé par les produits naturels, tire la sonnette d'alarme.
Les infections de tout genre, ainsi que la tuberculose, ont envahi les 2/3 de ces cellules. La mort commence à prendre possession et à conquérir cette prison. Dans moins d'une semaine, des détenus sont succombés par manque de la nourriture appropriée et équilibrée, y compris la collaboration des autorités sanitaires, pénitentiaires et judiciaires pour le transfert des détenus à l'hôpital général de référence de Boma.
Face à cette situation, la structure appelle les autorités compétentes à mettre en place une structure sanitaire adaptée au sein de la prison afin de mieux prendre en charge les détenus malades. Selon l'organisation, le poste de santé actuellement en place a déjà montré ses limites face à l'ampleur de la crise. Depuis Matadi, Elis Kavira, Radio Kapi.
Une autre source indépendante a confirmé ces informations. Cependant, joint à ces sujets, le directeur de cette prison n'a pas souhaité commenter ces allégations. Par contre, les nouvelles sont plutôt rassurantes au cachot de Boko, dans le territoire de Mbanzangungu, après la découverte des cas suspects de choléra qui avaient entraîné des pertes en vies humaines. Aujourd'hui, la situation est sous contrôle. Selon le docteur Mbombolo Kangi Obeis, médecin-chef des zones d'intérim de la zone de santé rurale de Boko Kivulu et responsable de la surveillance épidémiologique, les différentes mesures mises en œuvre ont permis de contenir la propagation de la maladie. Nous vous proposons d'écouter le docteur Mbombolo Kangi Obeis au micro d'Élise Kavira.
Nous pouvons vous rassurer que tous les secteurs sont entrés en jeu, la justice, la police, l'administration du territoire et consorts, les cachots complètement désengorgés, les locaux désinfectés, tous les malades soignés, aucun nouveau patient, aucun nouveau décès. En tout cas, actuellement, tout est revenu au calme, comme je l'ai dit, la situation sanitaire est vraiment maîtrisée.
Santé toujours cette fois-ci au Nord Kivu. La campagne intégrée de vaccination contre la poliomyélite, la rougeole et la rubéole n'a toujours pas débuté dans la zone de santé de Pinga, située dans le territoire de Walikale. En cause, selon les médecins chefs des zones de santé de Walikale, des difficultés logistiques empêchent l'acheminement des intrants vers cette zone jugée difficilement accessible. Pourtant, les responsables sanitaires indiquent que plus de 60% des intrants de vaccination sont encore stockés au bureau central de la zone de santé de Walikale. Les détails avec Bernardine Diambo.
Lancé officiellement vendredi dernier à Walka le centre par l'autorité territoriale, cette campagne de vaccination prévoit d'immuniser 52 000 enfants âgés de 0 à 59 mois contre la poliomyélite, ainsi que 1 172 enfants de 6 mois à 14 ans contre la rougeole et la rubéole dans les 4 régions de santé qui comptent les territoires. Selon les responsables sanitaires, les activités ont déjà démarré dans les zones de santé de Kibua, de Tebero et de Walikale. Les intrants y ont été acheminés par moto. En revanche, la zone de santé de Pinga reste confrontée à d'importants défis logistiques qui retardent le transport des vaccins. Le médecin chef de zone, le docteur Richard Bingi, affirme attendre une nouvelle opportunité pour acheminer les intrants vers cette partie du territoire.
Jusqu'à là, plus de 60% des intrants sont encore aussi à l'hôpital pour organiser la campagne de vaccination. Donc on a trouvé une occasion avec les vols militaires qui a fait transport de quelques intrants. La grande partie est encore aussi au niveau du bureau central de la zone de santé de l'hôpital. Nous attendons encore les occasions prochaines pour voir à quelle mesure les états pourront arriver dans la zone de santé de Pinga afin aussi qu'ils puissent se lancer.
Malgré les difficultés d'accès à certaines localités ciblées, les autorités sanitaires se veulent rassurantes quant à la poursuite de la campagne.
Il n'y a pas de pollution de l'environnement au village Kibunduka dans le groupement Inakiluba en territoire de Kipushi, contrairement aux accusations qui avaient été portées contre la société minière du Katanga Somika. C'est le constat dressé ce samedi par le porte-parole du cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga après la publication des résultats d'analyse d'échantillons prélevés dans plusieurs cours d'eau de la région. Selon la société civile, les résultats ont révélé un niveau du pH indiquant que les eaux provenant des installations de la Somika ne contiennent pas d'acide susceptible de polluer l'environnement. Plus de détails avec Paulin Munanga.
Une délégation composée de représentants de la société civile, d'experts, des journalistes, des membres de la communauté locale ainsi que du chef du village Kibunduka a effectué une descente sur le terrain afin d'inspecter les cours d'eau traversés par les eaux d'Exor provenant des installations de la Somika. Les experts ont procédé au prélèvement d'échantillons dans plusieurs sites, notamment au village Kwampisha, dans la rivière Kasonta et dans la rivière Kibunduka. Des échantillons ont également été recueillis dans la rivière Kipopo située dans les périmètres concernés. Les analyses réalisées en laboratoire ont conclu à l'absence de pollution environnementale liée aux activités de l'entreprise minière Somika. Le porte-parole du cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga s'est dit satisfait des résultats qui, d'après lui, n'exposent pas la population au danger de la pollution. Guilin Kaloa.
Le constat est que le résultat répond aux normes à la matière à ce qui concerne l'exploitation minière. Ensemble, nous avons été sur terrain, nous avons prélevé l'eau, nous avons été au laboratoire, nous sommes satisfaits par rapport à ces démarches d'aujourd'hui.
Pour rappel, l'Institut de recherche en droits humains, IRDH, a accusé dernièrement 3 entreprises minières, dont Somika, de pollution de l'environnement dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, plus de 100 jeunes filles et garçons de la commune urbano-rurale de Maluku ont été sensibilisés samedi sur l'importance de la paix dans leur milieu de vie. À l'initiative de l'ONG Rien sans les femmes, cette activité visait à amener les participants à prévenir les conflits et à mener des actions de développement et de la cohésion sociale dans leur communauté. Les explications avec Blaise Ndongala Mayanda.
Réunissant des femmes, des jeunes, des enfants et des hommes, cette rencontre a placé au centre des échanges la participation citoyenne, la prévention des conflits, la cohésion sociale et surtout la nécessité d'une présence effective des femmes et des jeunes dans les espaces de prise des décisions. Venus de plusieurs quartiers de la commune urbano-rurale de Maluku, les jeunes filles et garçons ont salué cette initiative qui promeut la culture de la paix et le vivre ensemble dans leur municipalité. Pour les représentants des Caritas Social Action Network et de la CAFOD, on ne peut pas construire une paix durable en excluant celles et ceux qui constituent une grande partie de la société. De son côté, le chef du quartier Mandungu, représentant le bourgmestre de Maluku, a salué la tenue de cette matinée de sensibilisation. Cette autorité politico-administrative encourage également les femmes et jeunes de Maluku à mettre la main dans la pâte pour l'avancement de leur communauté.
Je suis tellement ravi. Ça a éveillé la population, la jeunesse d'aujourd'hui, de savoir que nous n'en avons que ces pays qu'on et nous devons prendre en main notre destin.
Et cette activité de sensibilisation s'inscrivait dans le cadre du projet dénommé Tufaunu Pamoja, que l'on peut traduire en français par Récissons ensemble.
Un mot sur l'éducation dans ce journal. Après près de 4 ans de réhabilitation, le complexe La Renaissance ex-Athénée Royale de Kananga s'apprête à retrouver ses élèves. Les 13 écoles hébergées dans ces complexes du Kasaï central devraient rouvrir leurs portes à l'occasion de la prochaine rentrée scolaire. Cette annonce du ministère de l'Éducation nationale réjouit aussi bien les élèves que les enseignants. Durant ces 4 années de travaux, ils avaient été relogés dans d'autres établissements, souvent très éloignés de leur quartier de résidence. Reportage d'André Katende Ngalamouloumé.
L'espoir renaît après la confirmation de l'ouverture du complexe La Reconnaissance à la rentrée scolaire prévue le 1er septembre prochain. Après environ 4 ans de réhabilitation, des salles de classe neuves sont prêtes à recevoir les élèves. Durant cette période, les écoles ont fonctionné ailleurs, souvent à des kilomètres. Les élèves parcouraient des longs trajets chaque jour. Pour eux, la reprise est un soulagement. Eline Toumba, élève de l'Institut Djikou, est venue contempler les nouveaux bâtiments.
Nous sommes très content. Avant, nous étudions loin. Maintenant, nous allons étudier près de chez nous.
Même enthousiasme chez les enseignants et chefs des établissements. Aaron Bidjiloukino, préfet de l'Institut des techniques commerciales de Kananga, se souvient du calvaire.
La distance qui ne pouvait pas nous permettre de travailler dans de meilleures conditions. Les difficultés liées aux assises, aux conditions peu confortables qui pouvaient permettre d'évoluer normalement.
Les parents aussi expriment leur joie. Ils espèrent que leurs enfants étudieront désormais dans de meilleures conditions, tout près de leur lieu de résidence. Kananga, André Katende Ngalamouloumé, Radio Okapi.
C'est une bouffée d'espoir pour près de 220 enfants orphelins de Mbujimayi. À l'approche de la rentrée scolaire, ces élèves ont reçu ce samedi un important lot de fournitures scolaires, de cartables et d'uniformes neufs et de kits scolaires. Cette action de solidarité est portée par la Fondation Rêve Congo dans le but de soutenir ces enfants et de leur permettre d'aborder la nouvelle année scolaire dans de meilleures conditions. Esther Ndalafina pour le reportage.
C'est un véritable soulagement pour plus de 220 élèves orphelins de Mbujimayi. Ces élèves évoluent dans différents établissements scolaires de la place grâce à l'ONG Rêve Congo. Ces élèves ont réceptionné des fournitures scolaires, des cartables, des uniformes neufs ainsi que des ketchs. Parmi les bénéficiaires, d'autres sont en voie de terminer leur cycle secondaire. Tout en remerciant les donateurs, le représentant de ces élèves a sollicité la poursuite de l'accompagnement même après les études secondaires.
Nous sollicitons avec beaucoup d'humilité la poursuite de votre accompagnement afin de nous permettre d'accéder aux études supérieures.
En plus des fournitures scolaires, les bourses d'études ont été accordées à certains d'entre eux. Pour l'abbé Jean-Paul Ngeleka, permettre à ses élèves de poursuivre leurs études, c'est leur donner les moyens de construire un avenir meilleur.
Moi, ma manière d'être un bon, c'est d'être dans les capitales humaines, aider les enfants, aider aussi les vulnérables, dans la formation professionnelle, les soutenir dans les activités génératrices de revenus.
Une initiative saluée par l'autorité urbaine, Jean-Marie Lutumba, a exhorté les familles bénéficiaires à une gestion responsable de ces dons. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
À Mambasa Centre, chef-lieu du territoire situé à environ 165 km de Bunia dans la province de l'Ituri, les activités ont repris normalement ce dimanche au lendemain d'une paralysie partielle observée samedi. Boutiques, commerces et trafic ont retrouvé leur rythme habituel après cette journée ville morte à l'appel d'une partie des organisations de la société civile. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
La mobilisation visait notamment à dénoncer les intimidations dont seraient victimes certains acteurs de la société civile ainsi que l'arrestation d'autres habitants dont un membre du mouvement citoyen Lucha. Selon les autorités judiciaires, ce dernier est poursuivi pour propagation de faux bruits. Il lui est notamment reproché des déclarations selon lesquelles l'armée serait passive. Le militant affirme de son côté ne pas être l'auteur du message qui lui est attribué, indiquant qu'il aurait été publié par sa cellule de communication, rapportent nos sources. La mobilisation de samedi n'a toutefois pas été suivie par toute la population. Certains commerçants avaient fermé leurs boutiques, tandis que d'autres avaient poursuivi leurs activités, entraînant une paralysie seulement partielle. Ce dimanche, le calme est revenu à Mambasa Centre et les activités ont repris normalement. Les acteurs locaux appellent désormais au dialogue afin d'éviter de nouvelles perturbations dans ce territoire de l'Ituri. Bounia, Jean-Claude Doki, Dile Radio Kapi.
Actualité internationale.
En Afrique du Sud, l'ANC, le parti au pouvoir, à la tête d'une coalition au niveau national, devait révéler samedi 22 août 2026 les noms de ses candidats au poste de maire de métropole pour le scrutin local prévu le 4 novembre. Cependant, à la dernière minute, son secrétaire général a repoussé cette annonce, se contentant de dévoiler les candidats présélectionnés. Un report qui pose de nouvelles questions sur la stratégie du parti, en particulier dans les villes où il est sous pression.
L'invité.
Du 13 au 16 août 2026, Kananga a vibré au rythme du Festival international Sankai. Pour cette deuxième édition, les organisateurs ont placé l'entrepreneuriat, l'investissement et l'innovation au cœur des échanges. Quels ont été les enjeux de ce festival? Élément de réponse avec Jonathan Mulumba, coordonnateur général du festival Sankai, invité de notre journal. Il s'entretient avec André Katende Ngalamulume.
Jonathan Mulumba, bonjour.
Bonjour Monsieur André.
Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par festival international Sankai?
Merci pour la question. Des prime abord, Sankai, c'est un terme tiré de la langue Tshiluba qui veut tout simplement dire « réjouissez-vous ». C'est une plateforme de promotion des potentialités des provinces qui fait en sorte que nos provinces soient des pôles d'attraction et de prospérité.
Depuis quand le festival a commencé et qu'est-ce qui vous a poussé à organiser le festival Sankai?
Ce festival a commencé l'année passée en Mbujimayi, c'était dans le cadre de la première édition. Ce qui nous a motivé, c'est cette responsabilité de trouver des solutions aux problèmes qui rongent notre société. Et dans l'espace Grand Kassai, nous avions pu remarquer que les grands problèmes, c'est les manques d'opportunités et c'est ça même la cause principale de l'exode. Alors on ne pouvait pas laisser ces problèmes perdurer. Il fallait tout faire pour voir comment mettre fin à ça. L'idée, c'est qu'il fallait mettre un cadre de réflexion, d'ambition, qui met au centre le développement économique de nos provinces. Voir comment connecter les jeunes aux opportunités qu'offre le gouvernement central. Il y a beaucoup de programmes d'accompagnement des jeunes entrepreneurs, mais qui n'arrivent toujours pas au centre.
Revenons au festival organisé à Kananga du 13 au 16 août de l'année en cours. Quel a été le thème retenu?
Kassai Central en éveil, entrepreneuriat, investissement et innovation au service d'un développement durable et inclusif.
Pourquoi ce thème?
Le Kassai Central a des potentialités économiques, disais-je. Et il y a cette jeunesse qui entreprend, qui a besoin de l'accompagnement. Il n'y a pas seulement les entrepreneurs, il y a les innovateurs, il y a des initiatives qu'il faut louer en fait. Mais à part ça aussi, il y a beaucoup d'opportunités d'investissement qui regorgent la province du Kassai Central. Alors il faudrait un thème qui réveille les esprits, dans ce sens de faire comprendre et à la jeunesse et aux personnes de tout âge, je dirais, que l'entrepreneuriat, c'est un moyen efficace pour bien faire son activité, mais également pour booster l'économie locale. Ainsi, nous aurons des PME fortes et cela va aider à ce que nous puissions voir une province attractive. Sankai n'est pas venu seulement pour faire appel aux jeunes, venez exposer, mais également Sankai s'est inscrit dans cette logique-là du programme présidentiel des jeunes congolais axé sur l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes à travers son outil qui est le concours national des plans d'affaires simplifiés. Alors Sankai s'en est approprié pour amener tous ceux qui chapeautent ces programmes.
Alors, qu'est-ce que la population de la ville de Kananga a bénéficié concrètement de ces festivals Sankai?
Premièrement, la population a bénéficié d'abord des informations. Vous savez, si vous exercez une activité que vous n'avez pas d'informations, c'est déjà un échec anticipé. nous avions, grâce à nos partenaires, mobilisé la population, informé la population sur la nécessité de se mettre en ordre pour profiter des programmes que le gouvernement congolais met en place pour les entrepreneurs.
En rapport avec l'après-Sankai, à quoi est-ce que la population doit s'attendre, les jeunes entrepreneurs également qui ont exposé leurs produits?
Merci pour la question. Le fait pour nous d'être venus à Kananga pour organiser le festival, mobiliser cette jeunesse bourrée de talents, tous ces entrepreneurs, tous ces innovateurs, c'était pour nous la première phase. Alors, la population doit s'attendre à la deuxième phase qui est la phase opérationnelle, notamment l'arrivée du concours national des plans d'affaires simplifiés. Parce que pour la première phase, c'était la vulgarisation, l'information. Alors, la deuxième phase, c'est le lancement de ces concours. Et Sankai ne va cesser d'accompagner la population. Nous serons toujours derrière ces entrepreneurs, accompagnés de tous nos partenaires. Mais également, les activités vont continuer ici au niveau provincial pour que les gens gardent toujours cette flamme-là du débit.
Jonathan Moulumba, nous vous disons merci.
Merci à la Radio Kapi pour cette invitation et merci à vous aussi.
Jonathan Moulumba, coordonnateur général du festival Sankai, invité de ce journal et il s'entretenait avec André Katende Ngala Mouloumé. Voilà qui met fin à ce journal dominical de la mi-journée, préparé pour vous par Jean Gandou et la mise en onde était assurée par Pierre Diassinois. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.